Frères et sœurs, nous entourons cet après-midi de toute notre affection et de toute notre prière ces trois ordinants au jour de leur ordination diaconale. Ils vont devenir diacres par l'imposition de mes mains et par le don de l'Esprit-Saint. Fabien Damet et Louis Le Grel, pour le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, Jean-Baptiste Buis, qui a accompli tout son séminaire aussi au séminaire diocésain des Cinq Cœurs de Jésus et de Marie, mais qui sera ordonné diacre pour son diocèse de Haiphong, au Vietnam. Et je tiens d'abord à saluer avec beaucoup d'affection et de reconnaissance aussi pour le don qu'ils font de leur fils au Seigneur et à l'Église, leurs parents, leur famille. Je pense d'abord aux parents de Jean-Baptiste, qui suivront, grâce aux prouesses de la technique, cette célébration à distance, mais en direct, malgré le décalage horaire, sans doute avec beaucoup d'émotion. Je salue aussi les parents de Fabien et l'oncle prêtre de Fabien, qui est ici parmi nous, que j'accueille et à qui je souhaite la bienvenue. Les parents aussi de Louis. Et nous avons une pensée toute particulière pour ta maman, cher Louis, qui doit se réjouir actuellement du haut du ciel. Le Seigneur, d'ailleurs, nous donne comme un clin d'œil, oserais-je dire, en faisant coïncider le jour de ton ordination en cette solennité de l'ascension du Seigneur avec la mémoire de la première apparition de Notre-Dame à Fatima, le 13 mai 1917. Nous savons quelle était sa dévotion à Notre-Dame de Fatima et à son message, en particulier à la communion réparatrice du premier samedi du mois qu'elle vous a, je crois, laissé comme héritage familial. Fatima, quelle belle coïncidence alors que nous célébrons l'ascension de Jésus au ciel et que nous sommes invités à tendre nos regards vers le ciel et non pas vers les choses de la terre. Lui qui est notre tête, dont nous sommes les membres de son corps, qui est déjà entré là où nous vivons en espérance, comme nous l'avons dit dans la prière d'ouverture de cette messe. Il me plaît de rappeler ce premier dialogue entre la Vierge Marie et les voyants de Fatima, alors qu'elle leur apparaît dans la lumière, qu'ils sont effrayés, qu'elle leur dit « N'ayez pas peur, je ne vous ferai pas de mal. » Alors Lucie se risque et elle dit « D'où venez-vous, madame ?» Et la dame de répondre « Je viens du ciel. » »« Vous venez du ciel ? Est-ce que j'irai au ciel, moi aussi ?»« Oui, tu iras au ciel. » Et Jacinthe, oui. Et François, oui, mais il faudra qu'il prie davantage le chapelet. Est-ce que nous sommes préoccupés du ciel, chers frères et sœurs, alors que nous célébrons cette solennité de l'ascension du Seigneur ? Nous qui sommes tellement immergés et parfois prisonniers des contingences de la vie terrestre, nous sommes faits pour le ciel, comme nous dit saint Paul dans l'épître que nous avons entendu aux Éphésiens. Il est monté dans la hauteur, il a emmené les captifs, il nous a libérés de notre captivité et de notre esclavage en nous donnant l'espérance du ciel, de la vie éternelle. Cher fils, c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Vous allez être ordonné diacre, demain prêtre, s'il plaît à Dieu, pour vous mettre totalement au service du royaume de Dieu qui n'est pas de ce monde. Sans doute face aux dysfonctionnements et aux injustices qui traversent notre monde, nous pourrions être tentés de travailler directement à faire un monde meilleur en transformant la société et ses structures. Mais Jésus n'est pas venu pour faire un monde meilleur. Il est venu pour faire un monde nouveau, pour renouveler l'homme de l'intérieur, faire de nous des hommes nouveaux, libérés du péché, rétablis dans leur dignité et dans l'éminence de leur vocation, qui est le royaume de Dieu, qui est le ciel. Ce fut d'ailleurs le grand malentendu entretenu dans l'esprit des apôtres par une sorte de messianisme bien trop temporel que de poser ingénument à Jésus la question alors qu'il allait dans quelques instants être enlevé dans les nuées du ciel. Alors c'est maintenant le moment où tu vas rétablir la royauté en Israël. Décidément, ils n'avaient rien compris. Et avons-nous mieux compris qu'eux ? Et de leur répondre, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que Dieu, le Père, a fixés de son autorité. Mais vous allez recevoir une force venue d'en haut. L'Esprit Saint viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous êtes appelés, cher fils, à témoigner du royaume des cieux. Votre ordination diaconale s'inscrit dans cette mission fondamentale que Jésus a confié à ses apôtres précisément au jour de l'ascension. Nous venons de l'entendre dans l'Évangile. Allez, proclamez l'Évangile à toute la création. Et comme pour nous montrer combien ce mandat missionnaire nous oblige aujourd'hui comme hier, il en souligne aussitôt toute la gravité, toute l'urgence en disant « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ». Et vous allez devenir les ministres ordinaires du baptême. Mais celui qui ne croira pas sera condamné pour autant qu'il aurait été mis en situation d'entendre la parole et pourtant aura refusé de croire. Vous êtes ordonnés au salut des âmes, qui est la loi suprême dans l'Église. Dans ta lettre, cher Louis, tu me dis que pendant tous tes apostolats, tu as été hanté par cette interrogation. Que deviendront les pécheurs ? Que deviendront les pécheurs ? Qui a traversé tous les apôtres de tous les temps ? Je pense en particulier à saint Dominique, qui fonda sur cette interrogation qui le hantait l'ordre des frères prêcheurs, pour ramener les pécheurs à la conversion, rejoignant cette hantise jusqu'à l'angoisse de Jésus qui donne sa vie, toute sa vie, en sacrifice pour le pardon des péchés. Mais en même temps, vous avez bien conscience que vous entrez dans ce premier degré du sacrement de l'ordre, dans cette configuration au Christ, tête, pasteur, serviteur et époux de l'Église, par la porte du service. Vous êtes d'abord ordonné, comme nous le savons, saint Luc nous le dit de manière très claire dans les Actes des Apôtres, dans le récit de l'institution des premiers diacres. Vous êtes ordonné pour le service des tables. Les apôtres qui ne voulaient pas délaisser les deux pôles spécifiques de leur mission apostolique, la parole et la prière, en particulier liturgique et sacramentelle, instituèrent sept hommes remplis de l'Esprit à qui ils imposèrent les mains pour les députer au service des tables. Mais on comprend très vite que la diaconie de la charité, qui est le spécifique du diacre, est inséparable de la diaconie de la parole et de la diaconie de la liturgie. D'ailleurs, on le voit tout de suite dans le récit des Actes des Apôtres pour les premiers diacres, Étienne, qui va prêcher de manière tellement fervente et forte à ses frères de race, les Juifs, qui se bouchent les oreilles et qui grincent les dents lorsqu'il leur enseigne et proclame le mystère du Christ, mort et ressuscité pour nous sauver, jusqu'au martyr de la lapidation. Et Philippe qui enseignera l'eunuque de la reine Candace d'Éthiopie et qui le baptisera, séance tenante, dans le Jourdain. Il reste que le service des tables consiste dans cette première porte de votre service et passe effectivement par le service des plus pauvres, des exclus, des plus marginaux, des plus fragiles, des malades. J'ai bien compris, cher Fabien, dans ta lettre, que l'option préférentielle pour les pauvres qui t'habitent de manière concrète depuis si longtemps t'avait permis de discerner décisivement que ta vocation était apostolique avant d'être contemplative. Le service des plus pauvres, comme Jésus nous en a donné maints exemples dans l'Évangile, parce que l'homme est un de corps et d'âme, l'Église s'occupe des corps meurtris, des cœurs affligés, pour mettre leur âme en disposition d'accueillir le salut. Le service des tables, c'est aussi le service de la communion, c'est le service de l'unité. Vous avez entendu saint Paul vous dire, à vous en particulier, mais à nous tous, soyez dignes de votre vocation, ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Votre ordination va instaurer en vous un lien constitutif avec l'évêque qui rend présent le Christ tête, principe de l'unité du corps tout entier. Vous entrez dans cette trilogie évêque, prêtre, diacre, qui par leur communion manifestent l'unicité de la tête de l'Église, qui est le Christ et qui est le Christ seul, qui unifie par son esprit l'Église tout entière. Ce lien constitutif avec l'évêque, qui est la grâce toute particulière du prêtre diocésain, c'est sa marque de fabrique. Je dirais presque, c'est sa supériorité que de le manifester de manière aussi significative et aussi concrète en épousant une Église particulière comme coopérateur d'un évêque diocésain. Ce lien constitutif, vous allez l'exprimer à travers votre promesse d'obéissance entre mes mains. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs ou avec ton évêque et ses successeurs, Jean-Baptiste, dans le respect et l'obéissance. C'est un grand enjeu de communion que cette promesse d'obéissance aujourd'hui. Vous rendez grâce en relisant toutes ces années de formation qui ont pu être bien longues pour tel ou tel d'entre vous. Pour tous ceux qui vous ont accompagné pendant tout ce chemin vers le sacerdoce à travers joie et épreuve, car c'est dans les épreuves que le Seigneur nous éprouve précisément et qu'il nous fait mûrir humainement et spirituellement et qui donne aujourd'hui tant de maturité à la réponse libre que vous faites à son appel. Je veux en votre nom remercier vos formateurs d'abord, au séminaire, mais aussi tous les prêtres, les curés, les consacrés, les fidèles laïcs qui vous ont accompagnés tout au long de ces années, en particulier à travers les apostolats, les insertions pastorales qui sont partie intégrante de votre formation pour devenir précisément les serviteurs que Dieu veut selon son cœur du peuple de Dieu. Mais vous reconnaissez, vous rendez grâce aujourd'hui pour celui qui vous a accompagné de plus près encore et de manière encore plus prégnante Jésus lui-même, le Seigneur lui-même, à travers un compagnonnage qui n'a fait que grandir dans une relation d'intimité avec lui, d'amitié, cette relation avec le Seigneur que vous exprimez en mettant la prière, précisément, au centre de votre vie, comme la source véritable de la fécondité de votre ministère. La prière, qui je sais est tellement importante maintenant. Vous avez laissé Jésus vous accompagner, vous former, vous instruire, comme les apôtres, nous l'avons entendu dans les Actes des apôtres, pendant ces 40 jours en particulier, entre sa résurrection et son ascension, 40, qui est un chiffre qui est plus que chronologique, qui veut dire ce long temps de compagnonnage avec ses apôtres, pour les rendre aptes à devenir ses instruments, ses ministres, parce qu'ils sont d'abord ses amis. La fidélité à la prière des heures, à laquelle vous voulez vous engager tout à l'heure, non seulement nourrira quotidiennement votre vie spirituelle, vous associera de près au Christ toujours vivant, à la droite de son Père, pour intercéder en faveur des hommes, mais en même temps vous permettra de rester perpétuellement, heure après heure, unis au Seigneur. Par le don de l'Esprit-Saint, vous allez être configurés au Christ, pour conformer toute votre vie à lui, pour vous donner tout entier, comme il s'est donné lui-même, lui qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude, toute sa vie. C'est le sens de l'engagement au célibat que vous avez pris publiquement au tout début de cette célébration. Après avoir mûri ce choix pendant des années, après avoir été éprouvé dans votre masculinité, c'est-à-dire dans votre aptitude à aimer, vous savez pourquoi aujourd'hui vous renoncez à fonder une famille pour le royaume, pour vous conformer totalement au Christ, et il vous en donne aujourd'hui la grâce de vous donner, d'épouser l'Église du Seigneur que vous servirez avec un cœur sans partage, et le Seigneur ne vous abandonnera pas. Il va vous baptiser dans l'Esprit-Saint, il va vous donner la force. On disait autrefois que le diacre était ordonné à rebours pour la force, et tout à l'heure je dirai: envoie Seigneur sur eux ton Esprit-Saint, par sa grâce, qu'il soit fortifié des 7 dons de sa grâce pour remplir fidèlement leur ministère. Le Seigneur Jésus ne vous abandonnera pas. Il vous donnera les forces nécessaires dans tous les combats de votre vie, dans toutes les tentations de votre vie, pour peu que vous soyez fidèles à lui être unis chaque jour. Voilà, frères et sœurs, dans quelques instants, nos ordinants vont se prosterner à terre pour manifester le don total, l'offrande totale de leur personne entre les mains du Seigneur pour devenir ses instruments et les ministres de sa grâce. Et nous allons les envelopper de notre prière en faisant appel à tous les saints du ciel, à commencer par la Reine du ciel, qui est la Vierge Marie, que nous pouvons bien invoquer aujourd'hui sous le vocable de Notre-Dame de Fatima. Que Marie et que tous les saints du ciel viennent à leur secours, à l'heure où, conscients de leurs limites et de leur fragilité, mais sûrs de l'amour de Dieu pour eux et d'un amour de miséricorde, ils puissent se préparer à accueillir ce don de l'Esprit-Saint qui fera d'eux des serviteurs du Christ et de l'Église. Amen.